retrouver aujourd'hui sur les ondes de Radio Super Pouvoir, l'émission dédiée à l'univers des comics et des super-héros. Au cours de ces prochaines 45 minutes, nous allons décrypter les actus et les sorties comics qui nous ont tapé dans l'œil avant de s'attaquer au dossier du jour, et tout ça sera suivi d'une petite liste de recommandations, comme on le fait maintenant, et comme ça va être notre habitude au cours de cette prochaine saison. Je suis votre serviteur Guillaume, et je suis rejoint aujourd'hui par mon co-animateur Cédric. Bonjour Cédric.
Eh ben, bonjour Guillaume, bonjour à tous les auditeurs de Principe Actif et à tous ceux qui nous suivent sur le podcast de Radio Superpouvoir sur superpouvoir.com.
Alors toi Cédric, qui est un fan de DC, enfin beaucoup plus que moi en tout cas, peux-tu nous dire quelques mots sur le dossier du jour s'il te plaît ?
Eh ben sur le dossier, on va vous emmener sur les traces du vilain le plus célèbre de l'univers Batman, puisqu'on va parler du Joker. Et on parle du Joker parce que, évidemment, est sorti ou va sortir, je ne sais plus, le film Joker Folie à deux, hein, de Todd Phillips, qui est la suite donc du premier film Joker.
Celui dans lequel Joaquin Phoenix est rejoint par Lady Gaga, c'est bien ça ?
Tout à fait, donc à voir ce que le film va donner. On vous fera peut-être une prochaine critique dans une émission. En attendant, c'était l'occasion donc de revenir sur ce super vilain qui est peut-être même plus célèbre que certains héros.
Et heureusement que Cédric est là, parce que le Joker, perso, c'est un personnage qui me laisse un peu de marbre, enfin, pas le perso en lui-même, plus l'utilisation qu'en est faite, et comme Cédric le sait, moi je préfère double face.
Oui.
Le jour voilà. Il nous fera...
Après, c'est
il
toujours
nous fera
pareil,
une double face.
C'est un personnage qui a été un peu trop utilisé récemment, mais justement... Revenir sur ses origines et sur son histoire, ça va nous permettre, j'espère, d'intéresser tous nos auditeurs.
Voilà, c'est ça l'idée. Et peut-être que moi aussi, je vais découvrir des choses. Enfin, pas peut-être, j'en suis sûr. Donc, avant tout ça, on va faire le tour donc, des actus et ensuite des sorties du début du mois d'octobre. On se retrouve juste après le jingle pour parler des actus. Ce que vous n'entendez pas, c'est que Cédric vient de se faire maraver les tympans par le par la virgule.
Je n'étais pas prêt pour le jingle, mais tout va bien. Tout va bien, on va s'y faire. La nouvelle saison, tout ça, on met tout en place. Voilà, on va s'habituer.
Ça va venir. Tu as des actus à nous présenter, une qui est un peu triste d'ailleurs.
Oh ben, qui est même carrément triste. Hein. Ça paraît difficile de ne pas ouvrir cette émission donc, de comics. Sans parler de la mort d'un grand dessinateur, John Cassaday, qui est décédé à l'âge de 52 ans. L'artiste est parti le 9 septembre dernier, et même si on ne l'avait plus vu dessiner depuis un moment et que ses derniers travaux, notamment des couvertures, ne lui ressemblaient plus vraiment, il était atteint d'une longue maladie, eh bien John Cassaday, c'est quand même quelqu'un qui a laissé une trace dans le monde des comics, avec surtout Astonishing X-Men, hein, une série X-Men qui avait été relancée il y a à peu près une quinzaine d'années et qui avait vraiment remis les X-Men sur le devant de la scène. Et puis surtout Planetary, hein, qui est une œuvre assez magistrale qu'on peut placer dans le top 10 des meilleurs comics de tous les temps. John Cassaday n'avait pas publié que pour les comics, puisqu'il avait aussi publié de la franco-belge et notamment la BD Nous sommes Légion, hein, qui avait été publiée aux humanoïdes associés. Il avait un trait très très fin, très détaillé. Vraiment, c'est magnifique. Ses planches sont magnifiques et il nous a quittés à l'âge de 52 ans, ce qui est toujours trop jeune pour un dessinateur de ce talent. Tu avais lu, toi, Planetary, Guillaume ?
Non, il était sur ma liste, je ne l'ai toujours pas lu, honte à moi. Mais je vais le faire.
Tu devrais, et tous les lecteurs aussi, tous les auditeurs, pardon, devraient aussi lire Planetary par Warren Ellis et John Cassaday, qui est vraiment un hommage aux BD de l'âge d'or. Aux années 40, aux années 50, et avec des dessins donc de John Cassaday, du regretté John Cassaday.
Tu as une petite news Batman ensuite.
Ouais, on va revenir sur un peu plus léger, puisque je pense que vous connaissez tous le Hollywood Hall of Fame, hein, cette rue où les plus grands acteurs ont leur étoile avec leurs empreintes dessus. Eh bien, Batman va en obtenir une. Alors la cérémonie, elle se tiendra donc sur Hollywood Boulevard, devant le musée Guinness des records. Et ce seront Jim Lee, le président de DC, et Anne DePies, vice-présidente senior, qui seront présents pour donc dévoiler la 2790e étoile du fameux Walk of Fame. Fait intéressant, l'étoile de Batman sera placée à côté de celle d'Adam West, hein, qu'il a incarné à la télévision, et puis de Bob Kane, son co-créateur. Donc le personnage sera entouré de son créateur et d'une personne qu'il a le plus interprété, on va dire, Dans le monde des médias, on a une nouvelle actu aussi chez Marvel, qui décidément tourne en rond, voilà, avec une nouvelle série New Champions, qui va réunir des personnages dont tout le monde se fout, puisqu'ils ont été créés il y a à peine quelques mois. Alors vous y retrouverez Spider-Boy. Est-ce que tu sais qui est Spider-Boy, Guillaume ?
Pas vraiment, non, j'ai vu passer les couvertures, mais c'est du Dan Slott en plus, donc ça voilà, m'encourage pas à y aller.
C'est le sidekick de Spider-Man, vous savez, le partenaire jeune de Spider-Man, qui a toujours existé, mais dont on n'a jamais entendu parler, et qui est débarqué il y a à peine un an dans les comics. Vous aurez aussi Moon Squire, qui sera le petit acolyte de Moon Knight, cadet Marvel, qui sera le petit cadet de Captain Marvel. Bref, vous les connaissez pas. Eh ben, nous non plus. Voilà, puisque ils sont apparus à peine sur 3-4 couvertures et puis 5-6 épisodes. Et bon, bah voilà, c'est la nouvelle série que Marvel met vraiment beaucoup en avant avec des tonnes de pubs. Alors on se dit, bah, il y a peut-être des grands réalisateurs, enfin, des grands scénaristes, des grands dessinateurs dessus. Bah, c'est Steve Fox et Ike Guara. Alors, Iguara, j'avais lu quelque chose, c'est du dessin plutôt correct, Steve Fox, je ne sais pas qui c'est. En tout cas, les deux n'ont jamais rien livré d'oubliable non plus. Clairement, on se demande ce que ça vient faire là. Pour moi, c'est encore une série qui va durer 5 numéros, dont tout le monde va se moquer, voilà. Mais c'est la grande news de Marvel en ce moment, pour dire à quel point bah, la maison des idées, elle commence à en manquer sérieusement.
La maison des idées, la maison des Teen Avengers pour faire Teen Titans façon Marvel, peut-être.
Je ne sais pas. Vraiment, ça a l'air horrible. Hein. Mais encore une fois, laissons la chance au produit.
Oui, on ne sait jamais.
On ne sait jamais. Mais attendez-vous pas quand même à grand-chose. Voilà. Bon, tu as des choses à nous dire sur Terminator, toi ?
Ah oui, comme vous le savez, la licence a été reprise par Studio Canal et les droits comics ont été négociés avec Dynamite Entertainment, donc Dynamite, l'éditeur de Red Sonja notamment. Et donc, le Dynamite vient d'annoncer une nouvelle série Terminator qui sera supervisée par Declan Chalvet. Il s'agira de récits anthologiques principalement qui se dérouleront à différentes époques. Rien d'absurde non plus, il n'y aura pas de Terminator chez les Romains, faut pas exagérer non plus. Mais cette première aventure, elle se déroulera pendant la guerre du Vietnam. Et plus précisément pendant, comme vous devez le savoir si vous regardez de temps en temps des reportages historiques, la pitoyable évacuation de Saigon par l'armée américaine en 73. Et il va s'agir donc du pitch du numéro 2 qui paraîtra le 13 novembre. Le premier numéro, ça va plus être une mise en place, voir Skynet, quel est son plan et à quelle époque il renvoie les différents Terminators pour assassiner des membres de la Résistance. Bon, ça reste basique, mais peut-être que ça peut être intéressant. On attend de voir ce que ça va donner à partir de mi-octobre.
À voir. On avait eu quand même un film, Prey, qui amenait le Predator chez les natifs américains il y a 300 ou 400 ans. C'était plutôt réussi, donc ma foi, le Terminator, ça peut, du moment que c'est bien écrit et bien dessiné, après on verra.
Oui, moi j'attends de voir, j'espère que ce sera publié en VF, je pense que Vestron, ils vont le publier, enfin ce serait quand même logique, ils ont publié tout ce qu'ils ont sur Terminator, donc pourquoi pas.
Oui, bon, à mon avis on devrait l'avoir prochainement. T'as une autre annonce ?
Oui, mon méchant préféré de Batman, Double Face, qui va avoir le droit à sa mini-série, une mini-série qui va être écrite par Christian Ward. Et oui, Christian Ward... qui s'est fait un petit nom récemment. Je sais que Cédric va nous parler bientôt de Batman City of Madness, je crois.
Ouais. Alors moi, Christian Ward, pour moi, c'est plutôt un dessinateur. Alors un dessinateur au style très, très particulier, mais que j'aime beaucoup. Il va prendre le scénario en main. Il me semble que le dessinateur est quelqu'un d'autre, Fabio Veras.
Oui, c'est Fabio Veras, c'est bien ça.
Je ne connais pas du tout. À voir ce que va donner donc un grand dessinateur en termes de scénario. On le saura dans la prochaine mini-série Batman qui doit sortir le mois prochain chez Urban et dont on vous reparlera. Moi, j'ai toujours peur quand un dessinateur se lance dans les scénarios. C'est rare que ça marche bien. Après, toujours pareil, Christian Ward, c'est quand même quelqu'un qui est très intéressant graphiquement. À voir et à suivre.
Oui, vous pouvez retrouver la critique que j'avais faite en plus de son Aquaman Andromeda qui était plutôt réussi, bien que très référentiel, mais il y avait des sacrées planches quand même là-dedans.
Oui, et puis il y avait le scénario de Ramsey qui était très bon aussi, oui. Moi j'avais beaucoup aimé, donc Christian Ward, c'est vraiment quelqu'un que je suis depuis le début. Et bah, j'espère qu'il sera aussi bon scénariste que dessinateur, parce que dans ce cas-là, bah, ça va donner vraiment des choses extraordinaires.
Son pitch est assez simple, enfin en apparence, il va faire de Harvey Dent un avocat de la défense. Apparemment, il a réussi à avoir une cohabitation entre guillemets pacifique avec Double Face. On va voir ce que ça donne. Franchement, on peut critiquer le pitch comme ça, parce qu'on voit des trucs absurdes dans les comics, mais bon, c'est le propre du comics aussi. Après, il faut laisser la chance au scénariste de faire quelque chose.
Oui, tout à fait.
Et une petite news qu'on va classer dans cette nouvelle rubrique insolite, on en fera de temps en temps, puisque Frank Miller a dévoilé sa couverture de Sabretooth, Dent de Sabre, si vous connaissez l'ennemi juré de Wolverine. Une couverture un peu spéciale, je dirais. Enfin, je suis mort de rire parce que je l'ai vu franchement googler là. Est-ce que tu as pu admirer ce chef-d'œuvre, Cédric ?
Oui, mais je dirais qu'il faut arrêter de taper sur les personnes âgées. Voilà, la vieillesse est un naufrage et on y aura tous droit un jour. Là, Frank Miller, après, moi, j'aime beaucoup Frank Miller, donc ça m'embête toujours de me moquer un peu et de voir ses dessins actuels. Frank Miller, c'est quand même quelqu'un qui a révolutionné les comics, qui a fait donc Batman Dark Knight. Je pense qu'il n'y aurait pas eu Frank Miller, il n'y aurait pas eu de Batman sur les écrans et dans les bacs de comics depuis les années 90, où ce serait resté très confidentiel. C'est quelqu'un qui a connu un parcours vraiment difficile, puisque les attentats du 11 septembre l'ont vraiment beaucoup marqué. Il est devenu un peu fou, il est devenu un peu...
Un peu raciste.
Il est devenu un peu raciste, il est devenu un peu vraiment très, pas très fréquentable. Et puis, il a été très malade aussi, il a eu une longue maladie. Et là, il est sur une quête de rédemption. Bon, là, sa couverture, elle est vraiment ratée, je pense qu'on peut le dire. Voilà. Ouais. On a l'impression qu'il a collé des petits bouts de dessin, mais ça marche pas. Ça reste quand même Frank Miller, et c'est vrai que... J'ai toujours du mal parce que, pour revenir à John Cassaday, sa dernière couverture était absolument horrible. Tout le monde s'était moqué. Et puis, on a appris quelques mois plus tard qu'il était mort de ça. Enfin, pas de ça, mais qu'il avait dessiné une couverture limite pour se payer ses frais médicaux. On souhaite pas ça à Frank Miller, du coup, mais c'est vrai que c'est toujours.
Le truc, c'est qu'il est un peu coutumier du fait depuis quelques temps, c'est surtout ça.
Ouais, après, Frank Miller, il faut quand même reconnaître que pour son Dark Knight 3, il n'a pas repris les dessins, il a laissé les dessins à Andy Kubert. Donc ça prouve qu'il a conscience, je pense, de la fragilité de son trait actuel. Après, Frank Miller, c'est quelqu'un qui maintenant a 80 ans, peut-être 75, je ne sais pas, qui a été très malade. Il va pas refuser l'argent que va lui proposer Marvel pour une couverture.
Il aurait tort.
Et elle est ratée. Voilà, c'est vrai que c'est horrible à regarder. Mais on sait pas. On sait pas ce qu'il y a derrière non plus. Donc, faut pas non plus trop l'enterrer.
Alors, peut-être qu'il fait ça pour faire rentrer de l'argent pour sa propre maison d'édition. Après, regarde sur Ronin 2, que j'ai pas encore lu, mais que j'attends. Il a laissé le dessin. Et franchement, Ronin 2, ça a l'air de claquer.
Après, il faut voir. Voilà, il est peut-être plus capable de dessiner. On lui demande quelques couvertures qui feront l'événement. Et mine de rien, même si elle est abominable, on en parle. Et elle va se vendre. Voilà. C'est un petit peu la fin.
Attends, tu sais qu'avant le délire que j'ai eu un peu avec la poste, j'avais l'intention de commander sa couverture de Wolverine parce que je voulais l'avoir, en fait.
Prends-la, ça risque d'être un collector. Ça risque d'être un collector. Faut attendre, faudra voir. Après, j'espère que Frank Miller, il a encore des choses à apporter au niveau du scénario. Au dessin, c'est mort. C'est insolite, comme tu dis.
Ouais. Moi, j'attends que Guin et Monin annoncent. Enfin, les productions Frank Miller là, qui sont parues cette année et l'an dernier, donc Ronin 2 et un petit peu ce qui se fait, parce que ça a l'air chouette en plus, donc ce serait bien de les avoir en VF.
Ouais, il faudra que je vois si c'est disponible en VO, si la série est terminée.
S'ils les font en TPB en VO, il faudrait vraiment que je regarde aussi.
Ouais, je regarderai, mais s'il y a un VO, Ronin 2 m'intéresse, moi.
Ronin 2, je crois qu'ils ont fait une collector, ouais.
D'accord. Bon, bah... À suivre. On vous en parlera aussi dans l'émission si jamais on le lit. Voilà.
Ah bah, si ça sort, je pense qu'on vous fera. Ce sera l'occasion de vous faire une émission spéciale Frank Miller. Hein, ça vous donnera le coup, je pense.
Tout à fait, il y a des choses à dire.
Okay.
Et beaucoup mieux que sa couverture.
Voilà. Oui, ah, ça c'est sûr. Mais bon, jetez-y un œil et vous pourrez rigoler avec nous comme ça. Allez, on envoie le jingle et on se retrouve juste après. Avant de continuer, si vous souhaitez en savoir plus sur l'actu des comics, n'oubliez pas de nous rendre visite sur superpouvoir.com. Vous pouvez également liker cette émission et vous abonner si vous nous écoutez en podcast. Ok, donc on va passer aux sorties. Donc des sorties qui vont sortir, oui, c'est une très belle phrase, entre le 5 octobre et le 15 octobre.
Voilà.
Ouais, on enregistre ça le soir, on est un peu...
on est un peu fatigué là.
Voilà. Excusez-nous de nos phrases bizarres.
Surtout Guillaume, hein. Moi ça va, je tiens le coup, mais bon là, il faut reconnaître que Guillaume, il ne va pas bien. Je le vois, ouais. Il est en face de moi et il souffre. Cet homme souffre, il faut le savoir.
Oui, il s'est fait un peu mal au dos.
Ça fait à peu près 10 minutes qu'on n'a pas parlé des Tortues Ninja et là, il est en manque. Je le vois, là. Il tremble, il n'est pas bien.
Il faut que j'aille chercher absolument mes copies de Zolas Ronin qui sont là. Bref. Donc, il y a plusieurs sorties qui ont été décalées chez Vestron pour des raisons un peu malheureuses. Donc, c'est les sorties Power Rangers dont je vous ai un peu parlé qui vont finalement arriver le 11 octobre. À part ça, chez Huggin et Monin, ah bah justement, mais là je triche un petit peu, ils vont nous sortir le 4 octobre le livre Conan le Barbare, l'histoire d'un film culte. Alors celui-là, je l'attends beaucoup, parce que généralement, je ne sais pas si vous avez lu celui sur le magnifique avec Belmondo, qui était déjà un très beau livre, et là celui sur Conan, il a l'air d'envoyer du beau aussi. Ce sera disponible à partir de 39,95€. Bon, un peu cher, mais c'est un beau livre. Chez iComics, le 9 octobre, le 6e tome des Tortues Ninja Classics.
Alors, tout de suite, il a changé de couleur, voilà. Là, Guillaume. Il a changé de couleur pour les auditeurs.
Je suis devenu.
Ça y est, il est passé du gris à tout l'arc-en-ciel, là.
Voilà. Dans ce tome, donc, on aura le droit à la guest era, étant donné que les histoires du volume 1 se sont achevées avec le tome 5. La guest era, c'est un petit peu la période où Kevin Eastman et Peter Laird s'occupaient de la production du film et de la série télé. Donc, ils ont tout laissé à des amis, des dessinateurs, des scénaristes avec qui ils s'entendaient bien. Gérer un petit peu la série, ça a donné des trucs complètement barrés. Notamment le Soul Winter de Michael Zulli, qui était pas mal dans le cas, plus notre histoire dont j'ai plus le nom du scénariste en tête, mais un truc avec des enlèvements extraterrestres et des vaches. Ça, j'en reparlerai dans la rubrique Insolite un jour. Mais bref. Par contre, je vous mets un peu en garde, hein, c'est quand même cher, ça fait que 256 pages et c'est vendu quand même 40€. iComics, ça devient de plus en plus cher et perso, bon, j'adore les Tortues Ninja, mais je vois la tournure que ça prend sur la série régulière, les prix, tout ça. Je suis pas sûr de continuer en fait, parce que c'est quand même un sacré budget. Bon, j'admets qu'iComics m'envoie les certaines éditions, donc merci à eux, c'est très sympa. Mais vraiment, en tant que consommateur, bon, je sais les problèmes qu'ils ont par rapport à certaines choses, mais ça fait cher quand même. Moi, j'ai du mal. Hein. C'est des choses que je ne vais pas acheter, clairement. Chez Delcourt, le même jour, nous aurons le premier tome de Berserker Bloodline, la série co-créée par Kenny Reeves avec Matt Kind et Ron Garney. Alors, Bloodline, ça a l'air plutôt sympa. Ça se déroule dans le passé du personnage de B. À voir, moi, celui que j'attends le plus, c'est Faceful of Bullets, comme j'adore les westerns. Pareil, on verra tout ça, ce que ça donne. Et c'est un très bon point, parce que ça ne coûte que 16,50€. C'est pas cher chez Delcourt.
Ouais, c'est ouais, Berserker, c'est une très très bonne série. Moi, j'y croyais pas du tout, parce que bah, un truc écrit par Kenny Reeves, on se dit, ouais, c'est encore n'importe quoi, c'est juste pour vendre. C'est très très bon, avec Matt Kind au scénario, Ron Garney, qui livre des dessins bon, à la Ron Garney, hein. Il y a rien de surprenant, mais c'est assez dynamique. Et finalement, bah moi, je me suis laissé surprendre et j'ai lu les 3 volumes d'une traite de la première série. Donc, je ne sais pas si j'irai voir Bloodlines ou les autres, parce que je pense que l'histoire est terminée et qu'on a fait le tour du personnage. Après, je conseille nettement aux lecteurs. Hein, c'est disponible en 3 volumes hein, chez Delcourt. Et ça fait vraiment une bonne histoire qui tourne bien. Et ça devient de plus en plus rare dans les comics, une histoire courte qui est bien menée. Donc moi, je vous conseille Berserker. Après, voir si vous êtes intéressé par cet univers, bah donc le Bloodlines et puis le Fistful of Bullets, je crois.
C'est bien ça, oui.
Qui vont débarquer donc bientôt chez Delcourt.
Et encore une fois, hein, Delcourt, si vous voulez découvrir des nouvelles séries, des séries indépendantes de chez Image Comics, vu les tarifs qu'ils pratiquent, ça vaut le coup. Hein. On n'est pas sur du 20 ou 22,50 €. Là, on est quand même sur du 16,50 €. Bah, ouais. Si vous êtes curieux, c'est quand même moins de risques et moins de dépenses. Hein. C'est vrai que quand même, c'est important. Et ensuite, le 11 octobre, chez Vestron, donc le troisième tome des Tortues Ninja Adventures, la série Archie Comics, qui est vraiment sympathique. Alors, si vous avez aimé les Tortues Ninja et les trois premiers tomes, en réalité, parce qu'il faut compter les Chevaliers d'Écailles dedans, vous pouvez continuer la série. Hein. C'est à partir de ce moment-là que ça devient vraiment de plus en plus intéressant. Et je crois que, oui, non, pas je crois, j'ai fait le tour des sorties. Je te laisse, Cédric, vu que tu vas nous parler d'un Epic Collection.
Ouais, alors moi j'ai vu, hein, sur cette première quinzaine d'octobre, un Epic Collection Wolverine Retour aux Sources qui va reprendre donc les épisodes de Archie Goodwin, John Byrne et Klaus Johnson. C'est une histoire très très sympathique, c'est très dynamique, bon, ça révolutionne pas l'histoire, c'est Wolverine qui va se battre contre des dealers, je crois, au Mexique. Mais c'est vraiment intéressant, et puis le trait de John Byrne, il est ancré par Klaus Johnson, qui est un encreur très très sombre, un petit peu dark, et ça apporte vraiment une nuance intéressante au dessin de Byrne, qui vraiment n'a fait que des crayonnés et qui a laissé Johnson s'occuper du reste. Ce qu'il y a de bien dans ce volume aussi, c'est qu'en dehors de cette histoire, vous aurez aussi des épisodes avec Mary Jo Duffy, John Buscema. John Buscema, ça reste toujours une référence sur Wolverine. Et puis, vous aurez deux histoires et assez exceptionnelles. Scorpio Connection, donc dessiné par Howard Chaykin, donc le grand Howard Chaykin, que peu de monde connaît en France parce qu'il n'a pas été beaucoup publié, mais ça reste quand même un dessinateur de référence. Et puis, surtout, Jungle Adventures, où Wolverine est croqué par nul autre que Mike Mignola, le créateur de Hellboy. Donc, vous voulez voir Wolverine par le dessinateur de Hellboy, eh bien, c'est dans cette Epic Collection qu'il faudra aller voir. J'aime beaucoup les Epic Collections parce qu'il y a beaucoup de pages et c'est pas si cher que ça. Bon, c'est une trentaine, 35 €, je crois. Mais il y a 500 ou 600 pages. Et puis là, vraiment, c'est plusieurs très bonnes aventures. À suivre aussi Gods, la nouvelle mini-série de Jonathan Hickman et de Valerio Schiti, qui va s'intéresser aux entités cosmiques de Marvel. À voir donc. Hickman, ça peut être intéressant s'il tient son scénario. Et puis Invaders, qui va reprendre les 12 épisodes de la série éponyme par Chip Zdarsky et surtout Carlos Magno, un très très bon dessinateur au dessin. L'histoire, c'est quoi? Durant la Seconde Guerre mondiale, Captain America, Bucky, La Torche Humaine, Toro et Namor ont fondé le groupe des Envahisseurs pour se battre contre Adolf Hitler et les forces de l'Axe. Le temps a passé, et de nos jours, c'est Namor qui va lever une armée contre le monde de la surface. Donc, l'ancienne Torche Humaine va alors demander à Captain America de ramener le Prince des Mers à la raison. À voir ce que ça donne. Moi, Chip Zdarsky, je sais qu'il a beaucoup de détracteurs. Je trouve que ce qu'il écrit, c'est bien. C'est un bon scénariste de comics. Et puis, s'il y a les dessins de Carlos Magno, ma foi, allons-y. En tout cas, les 12 épisodes seront réunis dans un recueil. Ce sera une histoire complète et moi, j'y vais sans hésiter. Voilà.
Je viens de finir le tome 2 de New Byrne de Zdarsky et j'ai bien aimé le côté très ancré littéraire qu'il y avait là-dedans. C'est plutôt pas mal, puis ça a le mérite d'être assez court. Si ça vous intéresse aussi, vous pouvez découvrir New Byrne. C'est moins long que son Daredevil, par exemple.
Ouais, Chip Zdarsky, c'est vraiment pas mal. Moi, je trouve que c'est vraiment le scénariste de comics type, c'est-à-dire qu'il va peut-être pas livrer des histoires qui vont révolutionner le genre, mais qui arrive à faire des séries qui tiennent sur la longueur avec des idées intéressantes et pas si mal écrites que ça. Donc, ma foi, je verrai ce que donne cette série, les Invaders.
Ah, merci, Cédric. Et avant de passer au dossier, chers auditeurs, on va s'écouter un petit extrait musical. Que dis-je? Pas un extrait, mais bien un titre issu d'un film Batman. Veux-tu savoir lequel c'est, Cédric?
Allez, dis-moi tout.
Ah on va s'écouter Party Man de Prince dans le film de Tim Burton. Vous savez, la scène où le Joker vient déglinguer le musée, tu te rappelles de celle-là?
Oui. J'aimais beaucoup Prince, je crois que j'avais même acheté l'album, alors. Voilà.
Moi aussi, j'avais la cassette. J'avais la cassette, mes parents m'ont acheté la cassette.
Oh, la cassette! Bon, que les jeunes nous excusent, on est un peu vieux maintenant, mais...
Oui, la révolution du CD, qui est en train de mourir d'ailleurs, n'était pas encore arrivée. Allez, on s'écoute ça, on se retrouve après pour le dossier.
Gentlemen, let's broaden our minds. Lawrence!
Mm-hmm. you want to party.
Ladies and gentlemen, no pictures, please.
Qui avait été transformé en cobra mutant dans Batman et les Tortues Ninja notamment, et qui se faisait mettre la raclée par les tortues. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur le Joker. Je pense que Cédric aura des choses beaucoup plus passionnantes à nous dire. Ouais. Plaisante.
On va revenir à la réalité. Donc, il faut savoir que tout comme Batman, la création du Joker, elle est sujette à polémique. Alors, je pense qu'on en avait parlé ou que les gens qui s'intéressent un petit peu aux comics sont au courant, puisque la création de Batman, qui avait été pendant des années attribuée à Bob Kane, depuis à peu près 20 ou 30 ans, on sait que Bob Kane n'a pas été seul à créer Batman et qu'il a été accompagné notamment du scénariste Bill Finger. Et pour le Joker, c'est pareil, c'est-à-dire que sa création, elle est revendiquée en fait par trois personnes: Bob Kane, Bill Finger, donc, qui est le scénariste de Bob Kane, de l'ombre, et puis Jerry Robinson, un dessinateur scénariste qui lui aussi a travaillé dans l'ombre pour Bob Kane. Rappelons qui sont ces trois personnes. Donc Bob Kane, c'est le créateur officiel de Batman. Il a toujours revendiqué être le créateur à l'origine du Justicier durant des décennies. Et puis au fil du temps, comme je viens de vous le dire, une deuxième musique est apparue, notamment le fait que Kane n'écrivait jamais lui-même ses histoires ni ses dessins, mais qu'il embauchait des artistes et des scénaristes en sous-main pour produire ses histoires.
Ou alors il plagiait, il y avait ça aussi.
La couverture de Detective Comics qui a été plagiée sur Flash Gordon, ouais. Bon, à l'époque, c'était courant. Mais quoi qu'il en soit, donc Bob Kane faisait écrire et dessiner ses histoires par d'autres. Et ça, c'est pas une polémique, c'est un fait. C'est-à-dire que lui-même l'a admis et c'est avéré. Et parmi ses auteurs, il y avait donc Bill Finger, qui était un scénariste, et puis le dessinateur Jerry Robinson. Pour information, Jerry Robinson, c'est même lui qui va dessiner le troisième épisode de Batman dans Detective Comics, sans que son nom soit nommé, puisque ce soit Finger ou Robinson, les deux travaillaient pour Bob Kane à la seule condition, c'était d'être payé, mais de ne jamais revendiquer la paternité, ni des histoires, ni du dessin. Mais revenons au Joker. Alors, qui est le Joker? S'il y en a qui habitent sur une autre planète ou qui ont vécu sur Mars pendant à peu près 80 ans, le Joker, c'est un criminel psychopathe déguisé en clown, dont le visage tout blanc est barré d'un rictus perpétuel et qui n'hésite pas à tuer au hasard en utilisant souvent un gaz hilarant empoisonné. Alors, le personnage, il apparaît dans Batman, et puis il n'est pas censé survivre à sa première aventure. Mais Whitney Ellsworth, qui était alors éditeur des séries Batman, là on est vraiment en plein dans les années 40, je crois que c'est 1940 ou 1941, Whitney Ellsworth, l'éditeur des séries, lui, il est persuadé que le personnage, il a du potentiel. Donc, il demande aux auteurs de changer la dernière case de l'histoire quelques heures avant l'envoi chez l'imprimeur, et donc le Joker, qui devait mourir au bout de sa première aventure, va survivre, prêt à refaire son apparition quelques numéros plus tard. Alors, on ne connaît pas le véritable nom du Joker, ni même ses origines, et c'est ça aussi qui va le rendre, à l'époque, plus terrifiant et plus mystérieux. Il faudra d'ailleurs attendre 1951, c'est-à-dire près de 10 ans plus tard, pour savoir comment le personnage est devenu ce qu'il est. Il s'agit d'un ingénieur chimiste qui, sous le nom de Red Hood, s'était livré à un vol de produits dangereux. Pourchassé lors d'un cambriolage par Batman, il tombe dans une cuve de substances corrosives qui vont blanchir sa peau, le défigurer gravement et lui faire perdre à tout jamais la raison. C'est tout du moins les origines du personnage dans les années 50. Alors, d'où elles sortent, ces origines du Joker ? Donc, d'après Bill Finger, Bob Kane est un jour venu le trouver en lui demandant de participer à la création d'un vilain ressemblant à un clown. Trouvant l'idée et les dessins de préparation de Bob Kane trop enfantins pour ce genre de personnage, Bill Finger l'oriente alors vers une photo de Corinne Veidt, l'acteur, dans le film The Man Who Laughs, comme référence principale. Si vous tapez donc sur Google Conrad Veidt and The Man Who Laughs, c'est-à-dire l'homme qui rit, vous allez voir que la photo est très ressemblante au Joker. Et donc, d'après Bill Finger, voilà comment s'est passée la création du Joker. Pour lui, Robinson n'aurait donc participé que de loin à la création du personnage, intervenant toutefois dans son design par le biais d'une carte à jouer sur laquelle serait dessiné un Joker. Alors cette thèse, évidemment, elle est contredite donc par Robinson, qui revendique non seulement l'idée initiale du criminel, mais aussi celle de son design et de son caractère. C'est-à-dire qu'en gros, si on écoute Jerry Robinson, il dit « c'est moi qui ai tout fait sur le Joker ». Alors il affirme que c'est en voyant ses propres recherches que Bill Finger a pensé à Conrad Veidt, et puis que Bill Finger n'a fait qu'exécuter le script suivant les idées de départ de Jerry Robinson. Quant à Bob Kane, lui, c'est simple, il dit « c'est moi qui ai tout fait, de toute façon, c'est moi qui signais, alors que c'est pas moi qui dessinais les choses ». Bon, comme bien souvent dans ce genre de processus créatif qui implique plusieurs personnes, on ne saura jamais qui a réellement eu l'idée de base du Joker. La réponse, elle se trouve vraisemblablement un peu entre les deux versions exposées plus haut. Ce qui est sûr, c'est que c'est Bill Finger qui a eu l'idée d'associer le Joker donc à Conrad Veidt et à The Man Who Laughs, et que c'est Jerry Robinson qui a eu l'idée de la carte à jouer. Après, tout le reste, ça fait partie de l'histoire. Voilà. Alors, tout d'abord considéré comme un criminel psychopathe qui massacre des innocents sans remords, le Joker, il va s'aseptiser au bout d'un ou deux ans, c'est-à-dire vers 1942, car le public de base des comics à l'époque, c'est les enfants. Et de fait, c'est difficile de faire un criminel psychopathe qui tue et qui tue des gens dans une bande dessinée pour les enfants. On est, je rappelle, en 1940. Donc il va devenir plutôt un ennemi amusant, inoffensif, et qui finit toujours par se faire capturer par Batman. Ça, c'est ce qui va se passer pendant toutes les années 50. Et ça va durer à peu près pendant 20 ans, des années 50 jusqu'aux années 70, où le Joker ne sera finalement qu'un criminel loufoque qui utilise des gadgets assez farfelus, mais qui en fait n'est pas dangereux du tout. Et puis, c'est pas la série télévisée des années 60 qui va arranger la chose, avec des booms, des splashs, et puis où le Joker est totalement caricaturé. Et il va falloir donc attendre l'arrivée des créateurs Dennis O'Neill et Neil Adams vers 1973 pour que le criminel redevienne un psychopathe imprévisible et surtout très dangereux. À partir de ce moment, le Joker devient plus que jamais l'antithèse de Batman, symbolisant l'anarchie et la folie face à l'ordre et à la justice. Et c'est ce caractère dérangé, cet humour morbide et cette soif de chaos total qui ont marqué donc cette nouvelle ère du personnage. Mis en avant par Steve Englehart et Marshall Rogers, dans les BD d'exception, on va penser bien évidemment à The Killing Joke d'Alan Moore en 1988, où l'auteur britannique nous propose une nouvelle version des origines du personnage dans une histoire sombre et glauque, limite destinée à un public très adulte. Il y a de la nudité, de l'agression sexuelle, c'est du Alan Moore, c'est pas destiné à tout le monde, et c'est ce qui va vraiment redéfinir le personnage comme un criminel dangereux, et faire en sorte que le Joker devienne définitivement l'antithèse de Batman. C'est ce qui va être utilisé dans les années 90 et au début des années 2000, où le Joker reste une figure emblématique du mal dans les comics. Alors, de nombreux récits majeurs de l'univers DC ont mis en lumière la profondeur de sa folie et la complexité de sa relation avec Batman, une relation souvent décrite comme une obsession mutuelle où chacun est en fait le miroir brisé de l'autre. Le Joker, il est régulièrement représenté comme un sadique dont les plans complexes ne visent pas simplement à conquérir Gotham ou à voler de l'argent, mais souvent à prouver un point philosophique. Pour lui, la vie n'est qu'une blague et l'ordre social n'est qu'une façade fragile qui va pouvoir être brisée par un seul mauvais jour. C'est ce thème qui est central donc dans The Killing Joke de 1988, où Alan Moore, via le Joker, tente de pousser le commissaire Gordon à la folie pour prouver que tout le monde est aussi dérangé que lui au fond. Et puis, pour rebondir, c'est difficile pour moi de parler du Joker parce que c'est un personnage qui a tellement été utilisé depuis des années très mal qu'en fait c'est devenu quasi illisible le Joker. En fait, le Joker, c'est juste un clown. C'est quelqu'un qui n'a aucun pouvoir et qui fait tellement peur parce qu'il est fou et imprévisible. Or, depuis, on va dire les années 2000, Scott Snyder et puis Zack Snyder, comme quoi vraiment. Le
duo des Snyder.
Le duo des Snyder ont décidé, comme si les lecteurs étaient trop débiles, de le défigurer pour le rendre encore plus moche, de lui écrire « Je suis fou » tatoué sur son front au cas où on n'aurait pas compris.
Souvenez-vous quand même, j'allais te poser la question sur le Joker et cette vision un peu indépassable de la période post-Alan Moore, mais souvenez-vous de ce que Scott Snyder avait fait avec le Joker. Carrément, il se faisait arracher le visage et réagrafer le visage sur la tronche pour qu'on dise « Attention, regardez comme il est fou !»
Ça n'a aucun sens, alors que le Joker n'est jamais aussi bien écrit que quand il est imprévisible et sous forme de clown. Voilà. Moi, c'est tout ce qui me gêne chez le Joker actuel, même s'il y a encore quelques bonnes séries, on va en parler. Mais vraiment, le traitement du Joker depuis les années 2000, pour moi, il est totalement en contradiction du personnage. Et en fait, on n'en peut plus, et ce qui explique le fait que peut-être toi, Guillaume, le Joker, ça t'intéresse absolument pas.
C'est exactement ça, en fait. J'avais lu The Killing Joke, pas à l'époque, évidemment, mais j'avais pu le lire à la fin des années 2000, et ça m'avait beaucoup plu. J'avais enfin pu le lire, parce que le temps est passé, tout ça, bref. Et je trouvais que c'était une très bonne histoire. C'est une histoire courte, alors attention, l'édition que propose Urban d'ailleurs, il y a des petits rajouts dedans, parce que The Killing Joke, c'est vraiment très court, quand je vous dis c'est court.
C'est ça, 48 pages, 50 pages, grand max.
Oui, voilà, c'est pas un récit de grande saga qui dure des plombes et des plombes, pas du tout. Rien à voir, par exemple, avec la saga du Redempteur, c'est autre chose. Ouais. Mais ça reste une très bonne histoire et qui condense beaucoup de thématiques en peu de temps, et c'est là qu'on voit quand même qu'Alan Moore est un très bon scénariste. Et au-delà de ça, il y a eu The Dark Knight de Christopher Nolan, et moi, j'avais bien aimé le film, j'avais bien aimé l'interprétation du Joker dans le scénario et par, comment il s'appelait,
Heath Ledger.
Alors ça fonctionnait bien pour le film et pour l'univers dépeint dans les films de Nolan, je trouve. Le problème, c'est que si vous regardez les comics qui ont suivi, c'était tous en fait des sous Heath Ledger. Alors il a fallu que, comme on faisait que du Alan Moore, après on a fait que du Heath Ledger, le mec complètement défiguré de partout, tout d'un coup il avait plus la peau blanche, il se mettait du maquillage, enfin un personnage en fait victime de la mode. Alors j'attends qu'il nous fasse des ersatz de Joaquin Phoenix à n'en plus finir, là, bientôt peut-être.
Mais c'est insupportable. À voir. Et de fait, c'est ce que, à mon sens, alors ça fait peut-être encore un petit peu vieux lecteur, mais pour moi, le Joker n'a jamais été aussi bien écrit que quand c'était un clown imprévisible. Et tout est dans ses actions. Et si déjà, rien qu'à le voir, le Joker doit faire peur, pas par son apparence, mais par ses actes. Et ça, les auteurs actuels ont tendance à l'oublier. Ils y vont comme des bourrins. Après, encore une fois, on ne va pas les blâmer. Ça se vend. Les gens adorent le Joker parce que, oh là là, il est méchant, il est dark et tout ça et tout ça. J'aurais aimé un peu plus de psychologie dans l'approche du personnage depuis plusieurs années. Ça reviendra peut-être un jour où les comics se vendront plus.
On va voir ce que ça va donner dans la nouvelle série absolue de Batman. S'il y a un Joker, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Bon, attention, c'est Scott Snyder. Alors, espérons qu'il ne retombe pas dans ses travers.
Bon, t'as des recommandations à nous faire pour ceux qui seraient intéressés par le Joker et qui voudraient lire un peu plus sur le personnage?
Oui, alors j'ai essayé de vous prendre des choses de façon à faire un petit peu original, de changer un peu sortir des sentiers battus. En plus, c'est des choses que j'ai lues récemment. Donc, on va commencer par Batman Justice Buster, le manga d'Eiichi Shimizu, en 3 volumes, et le troisième vient tout juste de paraître chez Pika. Le pitch est assez simple, donc Bruce Wayne est devenu Batman depuis 3 ans, et il est aidé dans sa mission par Alfred et par Robin. Mais Robin, c'est une IA qui contrôle notamment ses gadgets à distance. L'idée est plutôt intéressante, en plus ça a le mérite d'être en 3 tomes, donc c'est assez simple à lire et ça ne dure pas des plombes. Et le rôle du Joker est très très surprenant. Alors vous vous attendez pas du tout à voir justement une version Alan Moore ou une version Heath Ledger. Hein. C'est complètement différent. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que bah, ça changeait justement. J'avais enfin
une proposition. Vas-y, dis-nous, on n'en peut plus là. Il devient quoi le Joker?
Le Joker est lui aussi un justicier. Un justicier plus borderline que Batman.
D'accord.
Voilà. Donc franchement, pour une série en 3 tomes, en plus en manga, ça coûte pas très cher. Si vous êtes curieux, allez-y, ça, c'est pas mal. En plus, bon, voir Batman en manga, j'ai toujours trouvé ça bien. Il y a par exemple Batman Ninja qui est plutôt cool aussi là-dessus. Les scénaristes de manga arrivent à faire des trucs bien, comme sur Deadpool. Ils ont eu beau faire de la pantalonnade, ça reste la version de Deadpool la plus intéressante actuellement. Sinon, on a aussi un truc complètement barré encore chez Pika qui vient juste de sortir, c'est One Opération Joker. Alors ça, c'est vraiment complètement débile par contre. Donc, lors d'un combat entre Batman et le Joker, Batman est tombé dans une cuve de produits chimiques et est devenu un bébé. Donc le Joker va recueillir bébé Batman et décider de faire toute son éducation pour en faire un véritable héros. Alors là, c'est complètement absurde. Si vous aimez les pantalonnades à la Hentai Kamen, je pense que c'est pour vous. C'est des blagues graveleuses, enfin, du bébé qui fait caca dans la couche, enfin, c'est complètement débile. C'est prévu en 3 tomes, voilà, Cédric passera, mais si vous aimez ce genre d'humour pipi caca, je pense que c'est pour vous.
Je passe, sans moi.
Oui, toi, tu as des choses plus classiques à nous recommander, je crois.
Ouais, on va arrêter un peu les mangas, et puis on va vous conseiller quand même de très bons comics, hein, consacrés au Joker, bon, des vrais, hein, voilà. Donc tout d'abord, hein, et on en a parlé maintes et maintes fois, bah, c'est réellement incontournable. Le récit de Killing Joke par Alan Moore et Brian Bolland, c'est un récit des années 80, donc, qui va raconter les origines définitives du personnage. Vous aurez un récit très adulte, très mature, et qui va rester un must pour tous les fans de comics. Si on ne présente plus Alan Moore, hein, tout le monde le connaît, bah, il faut aussi parler des dessins de Brian Bolland, hein, qui sont vraiment phénoménaux pour l'époque, hein, puisque c'est sorti dans les années 80, et c'est vraiment la version la plus importante des origines du Joker qui existe. Vous pouvez les retrouver chez Urban, hein, ce récit-là. Moins connu, moi je vous conseille en tout cas le récit Joker Fini de rire, qui contient 2 grandes mini-séries, mais alors vraiment très très bonnes, dont la fameuse Joker l'avocat du diable. Et croyez-moi, ça fait 40 ans que je lis du Joker, pour moi, cette mini-série Joker l'avocat du diable, c'est ce que j'ai lu de mieux sur le personnage. Point. C'est 2 spécialistes, hein, du justicier masqué qui sont dessus, des scénaristes qui sont restés très longtemps, mais qui sont pas très connus, Chuck Dixon pour les scénarios, Graham Nolan pour les dessins. Et franchement, rarement le Joker ne m'aura fait aussi peur. Et pourtant, bah les auteurs, ils n'utilisent jamais le gore ni la violence pour nous faire passer les émotions. Comme quoi, quand on sait écrire, on peut faire peur sans avoir besoin de défigurer un personnage ou de lui rattacher son visage sur le crâne avec des agrafes. Vraiment, Joker l'avocat du diable, ça peut vous réconcilier avec le personnage. Et dans ce récit, vous aurez aussi 3 épisodes signés J.M. DeMatteis, donc un très grand scénariste aussi, avec cette fois-ci une version d'un Joker réformé, devenu gentil alors que Batman est devenu méchant. Oh là là, ça vous rappelle rien ? Eh ben ouais, c'est le même principe que le White Knight de, je ne sais plus comment il s'appelle...
Sean Gordon Murphy
qui soi-disant a révolutionné alors qu'il a juste pompé honteusement cette mini-série. Non, là, je suis de très mauvaise foi, mais c'est pas grave.
Les gens vont croire que c'est notre tête de Turc.
Oui, bah pour moi, oui, voilà.
Je suis pas fan de ces trucs les plus récents. Hein. Quand il dessine, ouais, mais qu'il arrête de scénariser.
Voilà, donc Joker finit de rire, c'est une anthologie urbaine. Donc vous aurez... je sais pas combien d'épisodes ça fait, combien de pages, mais vraiment là-dedans, vous aurez 2 excellentes mini-séries des années 80-90. Et vraiment, allez-y, jetez-vous dessus.
Ça coûte 22€ et c'est encore disponible. Et ça fait 208 pages au total.
Voilà, jetez-vous dessus, c'est très très bon. Et puis, dans le même ordre d'idée, hein, la série Joker de James Tynion IV et Giuseppe Camuncoli, qui est sortie récemment, et là, je crois qu'il y a une intégrale qui est sortie le mois dernier chez Urban, ou il y a 2 mois. Bah, celle-là aussi, elle est plutôt bien, avec le Joker en tant que personnage principal de la série. C'est plutôt un affrontement Joker-Gordon. Et là, pour le coup, c'est plutôt bien fait. Donc, tous ces récits, hein, vous pouvez évidemment les retrouver sur Urban, hein, chez Urban Comics, et ils sont encore disponibles, tu nous disais, Guillaume.
Oui, oui, tout ça, c'est dispo. Ça coûte dans les... Bah, Joker fini de rire, 22€. Celui de Tignon, j'ai pas vu. Vous pourrez trouver ça facilement, puis en plus, on vous mettra la liste, comme d'hab, sur le site. Comme ça, vous pourrez vous y retrouver. C'est tout ce que tu avais à nous conseiller, Cédric ?
Ouais, c'est tout ce que j'avais à dire.
Bon, c'est déjà pas mal. Et je note qu'il n'y a pas de Tom King.
Non, il n'y a pas de Tom King dedans.
Oh, bah alors, et pourtant, t'as fait une critique d'un Joker de Tom King récemment, c'est pas bien.
Oui, j'ai dit que c'était pas si mal, mais que c'était pas terrible non plus. Comme d'habitude avec Tom King.
Oh, bah arrêtez avec Sean Gordon Murphy, Tom King, Jonathan Hickman, je pense.
Jamais, que... jamais on arrêtera.
Aux membres de l'équipe de Superpower, nous avons les gens sur lesquels nous aimons taper, un point c'est tout.
Oui, pour tout le monde, on a, oui, bah, oui. Comme tout le monde, hein, on a les gens sur qui on aime taper.
Voilà, les gens qu'on n'aime pas.
L'avantage avec Guillaume, c'est que vu qu'il n'en lit pas beaucoup des comics, il ne peut pas taper sur beaucoup de gens, voilà. Oui, mais moi, qui en ai lu depuis très longtemps, j'ai une liste de personnes que je... Non, on plaisante, bon, on plaisante.
Oui.
Lisez des comics, c'est bien, et lisez ces livres du Joker qui pourront vous apporter vraiment une version intéressante du personnage.
Bah, moi j'ai découvert des trucs là, des choses que tu m'as conseillé en plus, parce que c'est vrai que, comme je t'ai dit, moi quand j'ai essayé de me mettre à Batman, c'était vraiment la période post-Dark Knight, et t'avais que des trucs là, trucs barrés, du Heath Ledger, le Joker qui se fait découper la tronche. Je faisais, bon, ça va quoi.
Eh ben, moi, qui lisais du Batman depuis presque 40 ans, c'est cette partie-là qui m'a fait arrêter les séries Batman. Et vraiment, ouais, pour que j'arrête les séries Batman, c'est comme toi, si tu décides un jour de revendre toute ta collection des Tortues Ninja, quoi, hein, et de dire, plus jamais je n'en lirai, et plus jamais je ne regarderai. Vraiment, pour moi, ça dépassait tellement le cadre du personnage que ça en devenait n'importe quoi. Et comme c'est n'importe quoi, c'est plus très intéressant. Voilà. Mais...
c'est ça.
On vous mettra évidemment en lien les titres que l'on a conseillés dans cette émission.
Exactement. En attendant, on vous souhaite de prendre bien soin de vous, de passer une bonne journée, et on vous dit à dans 2 semaines pour fêter l'anniversaire de 4 ninjas mutants new-yorkais. Tu peux nous dire qui c'est, Cédric ?
Non, c'est bon, je passe.
Non. Vous devinerez de toute façon. Allez,
à bientôt. Salut à tous.